Le journal, bonsoir Frédéric Barrère.
Bonsoir et bienvenue dans cette édition de 19h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information dans l'actualité ce soir. La ville de Mariupol en Ukraine qui résiste à l'ultimatum russe. Nos soldats combattront jusqu'au bout, affirme le Premier ministre ukrainien. Le président Zelensky indique avoir invité Emmanuel Macron à venir en Ukraine constater l'existence d'un génocide. Nous serons en Ukraine avec nos envoyés spéciaux dans un instant. À Rome, dans sa bénédiction Urbi et Orbi, le pape François, en cette Pâque de guerre, appelle à entendre le cri de la paix.
Que ceux qui ont la responsabilité des nations écoutent le cri de paix du peuple, qu'ils écoutent cette question inquiétante posée par des scientifiques il y a près de 70 ans. Allons-nous mettre fin à l'humanité ou l'humanité renoncera-t-elle à la guerre ?
Nous irons à Rome avec des fidèles, place Saint-Pierre. La politique et la campagne, à une semaine du second tour de l'élection présidentielle, les soutiens de Jean-Luc Mélenchon se prononcent massivement pour le vote blanc ou l'abstention. Un tiers des sympathisants de la France insoumise voteront pour Emmanuel Macron. Résultat de la consultation menée auprès des citoyens ayant parrainé Jean-Luc Mélenchon. La page sport de ce journal, avec la victoire du Néerlandais Dylan Van Baarle dans le Paris-Roubaix, du tennis avec la victoire de Tsitsipas au tournoi de Monte-Carlo et le rendez-vous très attendu ce soir en Ligue 1 de football, PSG-OM, notre rendez-vous du dimanche 19h. C'est mon actu, Sandrine Houdin, à la chasse aux œufs de Pâques, micro tendu ce soir aux enfants et à leurs parents. La météo, les nuages arrivent par l'ouest, Jean-Pierre Hameau à la fin de cette édition, à 19h30, les petits bateaux Noël Bréham.
Bonjour, je m'appelle Maxin, j'ai 4 ans et demi. Et je voudrais savoir comment on fait le chocolat blanc. Merci.
Les petits bateaux après ce journal.
France Inter.
Et ce soir, l'attention se porte donc sur l'Ukraine. 53e jour de guerre, l'attention et l'inquiétude pour Mariupol. Les soldats ukrainiens retranchés dans les décombres de cette ville sur la mer d'Azov continuent de se battre. Il n'y aura pas de reddition. Les troupes ont ignoré aujourd'hui l'ultimatum de la Russie qui leur avait demandé de déposer les armes et d'évacuer ce port stratégique du sud-est de l'Ukraine. Le premier ministre ukrainien Denis Shmigal a indiqué que Mariupol n'est pas tombé. Nos soldats y sont toujours, a-t-il dit, et ils combattront jusqu'au bout. L'armée russe a aussi mené une série de frappes sur Kharkiv, une grande ville de l'est du pays. On retrouve en direct nos envoyés spéciaux, Camille Magnard et Laurent Macchetti. Bonsoir Camille.
Bonsoir.
Des frappes sur Kharkiv qui ont fait au moins 5 morts et plusieurs blessés.
Oui, les bombes sont tombées sur un quartier résidentiel du centre de la deuxième plus grande ville d'Ukraine, tout près de la frontière russe. Et comme hier, à quelques kilomètres de distance, elles ont tué, c'est vrai, des civils ukrainiens. Elles ont provoqué des destructions importantes et déclenché des incendies qui se sont propagés aux alentours. Ça fait en fait 3 jours de suite que Kharkiv est frappé plusieurs fois dans la même journée. Et ça replonge les habitants dans l'effroi des premiers jours de l'invasion russe, les plus durs, quand des dizaines de milliers de personnes avaient dû fuir les combats de Kharkiv. Depuis quelques jours, ils avaient plutôt tendance à revenir chez eux, un semblant de vie normale reprenait, comme à Kiev. Mais avec cette série de bombardements, les Russes envoient le message que non, la guerre ne s'éloigne pas avec l'offensive sur le Donbass, plus au sud, qui se prépare. Elle aurait même, cette guerre, plutôt tendance, ces derniers jours, à regagner en intensité.
Alors Camille, justement, la guerre regagne en intensité et le président Zelensky indique avoir invité aujourd'hui Emmanuel Macron à venir constater de ses yeux le génocide en Ukraine.
Et alors ça, c'est la réponse du président ukrainien à ces propos d'Emmanuel Macron qui ont fortement déplu ici en Ukraine il y a quelques jours, quand le président français expliquait que les peuples russes et ukrainiens sont selon lui des peuples frères, qu'on ne peut pas parler de génocide en Ukraine. Outre l'inconsistance du raisonnement, cette rhétorique des peuples frères très chère au Kremlin, reprise par l'Elysée, ça a indigné les Ukrainiens qui ont salué par contre en même temps le fait que l'Américain Joe Biden, lui, utilise bien le terme de génocide pour qualifier l'invasion russe de l'Ukraine et ses conséquences. Pour Volodymyr Zelensky, les crimes commis par la Russie depuis le 24 février constituent bien une volonté d'exterminer la nation ukrainienne. Une chose est sûre, ce n'est pas une rencontre entre les deux chefs d'État, à Kiev ou ailleurs, qui réglera cette épineuse question de droit pénal international.
Camille Magnard et Laurent Macchetti en direct d'Ukraine, merci. À Rome au Vatican, dans son message pascal, le pape François a appelé les dirigeants à entendre le cri de paix des gens en cette Pâque de guerre. Place Saint-Pierre, dans sa bénédiction Urbi et Orbi, et devant 100 000 fidèles. Le pape a dénoncé un conflit cruel et insensé. Philippe vit à Rome avec sa famille, mais il a passé plusieurs années à Kiev et il est d'autant plus sensible à la demande du pape de réclamer la paix depuis nos balcons et dans les rues. Ces paroles du pape et la foule présente ce matin donnent selon lui encore plus de force à la demande du pape François.
D'abord, j'étais très surpris par le nombre de personnes qui a eu à cette bénédiction, presque 100 000 personnes. Ça fait bien longtemps que ce n'est pas arrivé. Et bien sûr que ça résonne en nous, puisque ayant vécu 4 ans en Ukraine, il y a une dizaine d'années, voir ce qui se passe aujourd'hui est vraiment une grande désolation. Et je pense que le peuple doit descendre dans la rue, effectivement. Une grande manifestation pacifique dans le monde ferait beaucoup de bien à ce qui se passe aujourd'hui. Naturellement, on peut le faire dans les pays où c'est autorisé, où il n'y a pas de terreur. Maintenant, politiquement, c'est très difficile d'agir, mais je pense que tout ce qu'on fait aujourd'hui, notamment pour l'Ukraine, va dans le bon sens. Maintenant, il faut faire très attention, puisqu'il y a des risques naturellement mondiaux, des risques nucléaires, qu'il faut à tout prix éviter.
Philippe avec Bruce de Galzin, un dimanche de Pâques, endeuillé à Durban, en Afrique du Sud, après les tragiques inondations qui ont fait 443 morts sur la côte est du pays. Les chrétiens ont prié pour les victimes. Les coulées de boue, les glissements de terrain et les inondations ont détruit des milliers de maisons, laissant 40 000 personnes sans toit. Au moins une vingtaine de personnes sont encore portées disparues. L'archevêque de Durban s'est exprimé dans la presse pour dénoncer le manque d'adaptation de la ville aux aléas climatiques. Romain Chanson l'a rencontré entre deux messes pascales à la cathédrale Emmanuel de Durban.
Plus bruyant dehors et le chaos, plus fort doit être notre Alléluia. Face au pessimisme ambiant, l'archevêque Siegfried Mandla Jara appelle à chanter à l'unisson. L'archevêque demande à ses paroissiens de prendre cette tempête pour ce qu'elle est, une expression du dérèglement climatique. Dans la presse, ce matin, il glisse un message aux autorités. Les inondations font plus de dégâts à cause du manque de préparation et des infrastructures vieillissantes.
Il appartient au gouvernement de s'attaquer à la vieille problématique des infrastructures. Ce n'est qu'une catastrophe naturelle. Hier soir encore, j'ai beaucoup parlé de changement climatique, car il y a des gens qui ne comprennent pas bien. Mais maintenant, on peut voir ses conséquences.
À la sortie de la messe, les fidèles s'en tiennent à l'hommage aux victimes.
Je veux donner de la force à ces gens, leur dire d'avoir foi en Dieu. Nous sommes avec eux.
Ce sont nos frères et nos sœurs, donc on doit prier pour eux, en particulier pour les morts. Quand ils souffrent, nous souffrons aussi.
La semaine qui s'ouvre sera consacrée à l'aide aux victimes. Des campagnes de dons sont au programme. Durban, Romain Chanson, France Inter.
À l'étranger encore et en bref, une situation là aussi préoccupante entre l'Afghanistan et le Pakistan. Les tirs de l'armée pakistanaise contre l'est de l'Afghanistan ont fait 47 morts selon un nouveau bilan communiqué aujourd'hui par un responsable taliban. 41 civils, principalement des femmes et des enfants, ont été tués. 22 autres ont été blessés. La politique en France et la campagne présidentielle ce dimanche. Les soutiens de Jean-Luc Mélenchon, qui se prononce massivement pour le vote blanc ou l'abstention au second tour de l'élection présidentielle dimanche prochain. La France Insoumise a publié aujourd'hui les résultats de la consultation menée auprès des citoyens qui ont parrainé Jean-Luc Mélenchon. Plus de 37% des participants voteront blanc, près de 29% s'abstiendront et 33,4% des soutiens de Mélenchon voteront pour Emmanuel Macron. Le résultat de cette consultation, précise la France Insoumise, n'est pas une consigne donnée à qui que ce soit. L'électorat de Jean-Luc Mélenchon est particulièrement surveillé par les deux candidats finalistes de la présidentielle et les jeunes insoumis organisent en ce moment à Paris un apéro pour préparer la suite. Sur place dans le 19e arrondissement, on retrouve Steven Goyer. Bonsoir Steven.
Bonsoir Frédéric.
Et lors de cet apéro, eh bien, on est plutôt fidèle aux résultats de la consultation.
Oui, ils sont une bonne centaine ce soir, assis en terrasse, venus pour parler de la dernière campagne, boire un verre, jouer aux cartes. Et sur ceux que l'on a pu interroger, voilà les résultats de leur choix dans cette consultation.
Moi, j'ai voté pour Macron.
Et moi, abstention.
Blanc. Moi, j'avais voté abstention, mais ça a peut-être, voilà, ça a un peu évolué, je pense.
Blanc.
Moi, j'ai voté Macron.
Alors, pour Volodia, par exemple, les résultats sont assez logiques.
C'est pas surprenant, parce que il y a une telle détestation de Macron, et qui, pour moi, est totalement légitime. Du coup, je comprends qu'il y ait beaucoup de personnes pour qui c'est comme insurmontable de glisser un bulletin Macron dans une urne.
Et puis, il faut bien noter aussi que tout peut changer assez vite. Justine a, par exemple, déclaré qu'elle votera blanc dimanche, mais pour le moment, rien n'est joué.
Je pense que tout le monde est un peu en train de...
d'évoluer dans sa décision. Je pense que le lendemain de l'élection, on était tous en mode jamais une voix pour Macron et encore moins pour Le Pen. Que là, tout le monde est en train de se poser des vraies questions.
Et ces deux tiers de personnes qui annoncent ne pas vouloir voter Macron, bien c'est aussi un message à faire passer au président candidat, explique Aurélien.
S'il souhaite pouvoir être réélu, il sait ce à quoi peuvent être attachés les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. La question de la retraite, la question du pouvoir d'achat, la question de l'écologie.
Et puis de toute façon, tous ici se donnent rendez-vous pour le troisième tour. On parle bien entendu des élections législatives.
Steven Goyer avec Florent Layani, merci. Et à une semaine du second tour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron se sont accordés un court repos. En ce dimanche de Pâques, il reste 5 jours pour faire campagne et convaincre les indécis et les abstentionnistes. La candidate du Rassemblement National s'est défendue aujourd'hui sur France 3 d'être climato-sceptique après les accusations hier à Marseille d'Emmanuel Macron, le président sortant qui a fait donc un long plaidoyer en faveur de l'écologie. Un Emmanuel Macron écolo, Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, invité de questions politiques à la mi-journée sur France Inter, a des doutes.
Le meilleur moyen de protéger la planète, c'est d'engager le localisme, c'est-à-dire les circuits courts, le patriotisme économique, la proximité, c'est de produire en France tout ce qu'on peut raisonnablement y produire. Et pour ça, il faut se doter d'un état stratège et il faut investir dans les énergies de demain. Là où je vous en veux, c'est que vous avez fait le choix de taper sur les automobilistes, de taper sur les Français qui avaient besoin de leur voiture, alors qu'on sait que la moitié de nos gaz à effet de serre, en tout cas, sont la responsabilité directe de nos importations. Donc le seul moyen d'agir pour la planète, de défendre l'environnement, c'est d'arrêter ce grand déménagement du monde, de faire preuve de localisme, de développer les circuits courts et de faire le patriotisme économique pour faire en sorte que on inverse le coût de la distance. Aujourd'hui, plus vous allez chercher loin vos produits, moins ils sont chers. C'est l'inverse quand vous allez vous fournir en France. Eh bien, avec la taxation, il faut inverser ce coût de la distance.
Jordan Bardella avec Thomas Negaroff et Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement qui était lui aussi invité de questions politiques, estime de son côté que le Rassemblement National est le parti du grand réchauffement.
On a fait beaucoup pour l'environnement depuis 5 ans et on veut faire plus. Quand on fait ce qu'on fait, c'est-à-dire mettre 30 milliards là depuis 2 ans pour décarboner notre industrie, c'est 3 600 000 tonnes de CO2 qui sont économisées. Ensuite, les principaux secteurs émetteurs de CO2, c'est quoi ? C'est le transport et le logement. Nous, on veut sur le transport continuer à accompagner les automobilistes, pas leur taper dessus. Il y a 1 million d'automobilistes qui ont changé de véhicule grâce justement à nos primes, à la conversion, à nos bonus écologistes. Vous ne proposez absolument rien sur ce sujet-là. Le logement, il y a 600 000, 700 000 foyers l'an dernier qui ont pu faire des rénovations énergétiques dans leur logement grâce à MaPrimeRénov. Vous ne proposez rien sur ce sujet-là, on veut continuer et aller plus loin. Mais la réalité, encore une fois, c'est que vous voulez nous faire reculer sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique. Non. Vous êtes les candidats du grand réchauffement. Non.
Et puis concernant l'interdiction du voile, l'un des thèmes de campagne de Marine Le Pen, l'interdiction du voile dans la rue n'est plus une priorité de la candidate du Rassemblement National dans la lutte contre l'islamisme. Plusieurs lieutenants de Marine Le Pen, notamment son porte-parole Sébastien Chenu, ont indiqué aujourd'hui que l'interdiction du voile arrive après la fermeture des mosquées salafistes, l'interdiction du salafisme et la coupure des financements islamistes. Et on apprend à l'instant qu'une intervention de la BRI est en cours dans le quartier de Bercy. La station de métro est fermée. La station de métro Bercy est fermée. Les trains de la ligne 6 et 14 ne s'arrêtent pas à cette station. Les correspondances ne sont pas assurées. La préfecture de police de Paris recommande d'éviter le secteur. Un individu serait retranché dans le quartier avec une arme. En ce week-end prolongé de Pâques et au milieu des vacances scolaires pour les zones A et B, beaucoup de monde profite de ces quelques jours de repos. Week-end idéal pour notamment profiter de la région près d'Orléans, des températures douces. Julien Froment de France Bleu Orléans est allé à la rencontre de vacanciers au château de l'Étang à Saran.
Canapèche dans les mains, Cédric et Romain savourent cette quiétude dominicale à peine perturbée par le chant des oiseaux et les cloches de l'église.
Ouais, c'est sympa, le printemps il arrive. Enfin, il fait un peu froid quand même, mais bon.
Moi je viens même quand il pleut, quand il fait mauvais, mais ouais c'est agréable, le soleil et tout, on va pique-niquer, comme ça va être bien.
Ouais, et puis là il n'y a personne avec le week-end de 3 jours, il y a les 24 du Mans, il y a les vacances scolaires, c'est vrai que là il n'y a pas grand monde, d'habitude il y a un peu plus de pêcheurs.
Et autour de l'étang, Alexandra et ses deux fils profitent également de ce moment de calme.
Ça fait vraiment très plaisir, le moral est au beau fixe, on vient faire un petit tour avec les enfants, se défouler, prendre un petit côté verdoyant, ça fait du bien.
Un peu plus loin, autre ambiance, une famille prépare un grand repas à l'occasion de Pâques. Ils ont d'ailleurs apporté leur barbecue avec au menu.
T'as les poulets, t'as les saucisses, t'as tout.
Des grillades à côté de l'étang, c'est une habitude pour Sarah et ses proches.
Ça nous arrive souvent, surtout nous.
Quand on vient du Pacifique, du coup, on aime les moments comme ça avec la famille.
Sarah a bien raison de profiter du ciel bleu qui, hélas, devrait s'assombrir cette semaine.
Et prévision complète de Jean-Pierre Hameau à la fin de ce journal, 19h15 sur France Inter. La page sport de cette édition. Bonsoir, Winnie Claré.
Bonsoir.
Le nom du jour, c'est Dylan Van Baarn.
Le cycliste néerlandais l'a emporté dans l'enfer du Nord, le Paris-Roubaix, 119e édition. Le coureur d'Ineos Grenadier est entré en solitaire dans le vélodrome de Roubaix, au bout de 257 km de course et 30 secteurs pavés. Bonjour, Fanny Le Chevestrier.
Bonjour Winnie.
En direct de Roubaix, contrairement aux conditions dantesques de l'automne dernier, sous la pluie et dans la boue, c'était ciel bleu et vent de dos pour une course ultra rapide cette année, Fanny.
Et oui, la plus rapide de l'histoire, nouveau record à battre, 45,8 km/h établi par Dylan Van Baarle. Cela paraît complètement fou, hein, avec 55 km de pavés en plus, mais ce n'est finalement pas étonnant, avec des pavés très secs avec ce soleil, et dès le kilomètre 50, une bordure, le vent qui a cisaillé en deux le peloton, piégeant de nombreux favoris, et à partir de là, eh bien, la course a été totalement débridée. C'est Stephen Kung, superbe troisième ce soir, qui nous expliquait également que le matériel ne cessait de s'améliorer, rendant de mieux en mieux sur les pavés. Et voilà donc un Paris-Roubaix mené à un train d'enfer sans aucun répit, auquel n'a pas résisté le grand favori Mathieu Van Der Poel, éreinté, qui se classe 9e. Devant, la formation Ineos a fait tout du long un magnifique travail d'équipe pour mener donc Van Baarle vers le plus grand succès de sa carrière à 29 ans. Le Belge Wout Van Aert, à l'attaque entre deux crevaisons, prend la deuxième place. Lui qui revenait tout juste de maladie après avoir été touché par le Covid, c'est pas mal.
Et puis Fanny, deux Français hein, dans le top 10, le nordiste Adrien Petit, 6e, et Laurent Pichon, 8e, qui a créé la surprise aux avant-postes toute la course. Le coureur d'Arkéa, 35 ans, qui ne devait même pas participer au Paris-Roubaix.
Quand je suis venu à la Rocco vendredi, je me suis dit, mais t'es sûr que c'était une bonne idée de venir là, quand j'ai vu la violence, la brutalité d'Arenberg. Et puis voilà, on est arrivé pour la 6e place. Plutôt, ouais, je sais pas, je dois être comme le bon vin, je m'améliore avec l'âge, mais en tout cas, c'est que du plaisir. Et voilà, toute la partie où on était tous les trois, j'étais le seul Français, tout le public était pour moi. C'est un truc de fou, je me suis cru dans un stade de foot, c'est de la folie.
Voilà Laurent Pichon, le coureur d'Arkéa. Et on passe de la poussière du Nord à la terre battue de Monte-Carlo avec Stefanos Tsitsipas, érigé en dieu grec sur le rocher.
Le tennisman de 23 ans s'est imposé en finale du Masters 1000 face à l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, 6-3-7-6 cet après-midi. Stefanos Tsitsipas, numéro 5 mondial, qui inscrit pour la deuxième fois consécutive son nom au palmarès du tournoi, Fabrice Abgral.
1h36, c'est le temps qu'il aura fallu à Stefano Tsitsipas pour conserver son titre. Pour battre en 2-7, Alejandro Davidovich Fokina, le 46e mondial, la révélation du tournoi. Le grec savait qu'il fallait se méfier de cet Espagnol de 22 ans sans complexe et en pleine confiance depuis sa victoire sur Novak Djokovic, le numéro 1 mondial. Davidovich Fokina disputait la première finale de sa carrière, mais il ne s'est jamais laissé impressionner. Il n'a rien lâché, obligeant Stefano Tsitsipas à rester vigilant. Le grec a produit alors un tennis solide, agressif, tout en maîtrise, pour venir à bout de cet Espagnol d'origine russe, volontaire, valeureux, accrocheur et courageux. Mais toutes ces vertus n'ont pas suffi. Stefano Tsitsipas remporte le 8e titre de sa carrière, le 2e d'affilée à Monte Carlo. Il est le 6e joueur de l'histoire à conserver son titre en principauté. Il rejoint Nastase, Borg, Muster, Ferrero et Nadal, qui ont tous la particularité d'avoir remporté dans la foulée Roland Garros et d'avoir tous été numéro 1 mondial. Stefano Tsitsipas n'en est pas très loin. Lui, il est 5e et l'an passé, porte d'Auteuil, il avait été battu en finale par Novak Djokovic.
Rendez-vous donc à Roland Garros le 22 mai prochain.
Rendez-vous là aussi très attendu ce soir pour les fans de foot, le classico PSG-OM.
Les Parisiens reçoivent l'Olympique de Marseille en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Le leader contre son dauphin phocéen, Jean-Pierre Blimeau, vous êtes au Parc des Princes. Et si le Paris Saint-Germain est quasiment sûr de remporter le championnat cette saison, il y a quand même de vrais enjeux sur la pelouse ce soir.
Alors Winnie, le premier enjeu, c'est bien sûr le classico. Qui va gagner ce match que l'on coche sur le calendrier quand on est supporter de Marseille ou du Paris Saint-Germain? Ça, c'est la première chose. Il y a aussi un autre enjeu pour les Parisiens, c'est de se réconcilier avec leurs supporters. Ce n'est toujours pas le cas. Les plus fervents d'entre eux, notamment les ultras, n'ont toujours pas digéré la défaite, l'élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions. Ils ont prévu de continuer la grève des encouragements. Et puis, il y a aussi un troisième enjeu pour les deux clubs, pour le Paris Saint-Germain. Mais oui, il y a un titre de champion de France en ligne de mire, peut-être mercredi prochain, à condition de battre Marseille ce soir et de faire aussi bien que l'OM mercredi prochain lors de la prochaine journée. Et puis pour l'OM, l'enjeu sportif, vous l'avez dit, c'est aussi de conserver cette deuxième position. Quoi qu'il arrive ce soir au Parc des Princes, Marseille est assuré de rester deuxième, mais bien sûr ne veut pas traîner en route, ne veut pas laisser les points.
Jean-Pierre Blimeau, PSG-OM, coup d'envoi à 20h45. Et puis un mot de rugby, Frédéric, 4 clubs français sont qualifiés en quart de finale de Champions Cup. Le Racing 92 est le dernier à décrocher son ticket après sa victoire dans le derby francilien face au Stade français cet après-midi. Montpellier, La Rochelle et Toulouse seront aussi de la partie début mai.
Et bravo à eux. Une petite révolution dans le monde des échecs maintenant. La Fédération française est désormais reconnue comme une fédération sportive à part entière, au même titre que les fédérations de football, de handball ou d'athlétisme par exemple. Les échecs ont le vent en poupe. 5 millions de Français jouent au moins une fois par an et l'agrément signé avec le ministère des Sports va surtout permettre, Nicolas Perronnet, de développer le haut niveau. C'est le long format de ce soir.
La reconnaissance était attendue depuis plus de 20 ans et c'est une première en France pour un sport cérébral. Les échecs auront donc désormais un DTN, un directeur technique national et des financements pour le haut niveau. La France est aujourd'hui la 5e nation mondiale. Alors considérer les meilleurs joueurs comme des sportifs à part entière est une évidence pour le président de la fédération, Éloi Rollange.
Sur le côté technique, il n'y a aucune discussion possible. Il faut un temps fou pour réfléchir plus vite, pour calculer plus vite. Ça, c'est très factuel. Après, les championnats du monde et les tournois de très haut niveau durent longtemps. Et c'est des parties qui vont durer 6 heures. On va en jouer 10 de suite. La moindre baisse de régime peut entraîner la perte immédiate de la partie. Donc il y a une tension terrible. Et pour tenir cette tension, il n'y a pas d'autre moyen que d'avoir un corps qui suit.
La citation est restée célèbre. Il n'y a pas de sport plus violent que les échecs, disait l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, le russe Garry Kasparov. Sans aller jusque-là, le double champion de France, Laurent Frayssinet, qui entraîne actuellement le numéro 1 mondial, le grand maître norvégien Magnus Carlsen, se reconnaît totalement dans le portrait robot du sportif.
De maintenir une forme, de ne pas manger n'importe comment, de me coucher à des heures régulières, d'avoir une routine. Voilà, comme un joueur, je me lève à telle heure. Voilà, la préparation commence à telle heure. C'est le truc du sportif de haut niveau, c'est il faut une routine et c'est d'aller marcher le soir, ce genre de choses et de décompresser. Donc ouais, je pense que vraiment... Vraiment, c'est logique qu'aujourd'hui on soit reconnu par le ministère comme les autres sports.
Si le ministère a donné son accord pour l'agrément, c'est aussi parce que la discipline est en plein essor. Jamais les échecs n'ont été autant à la mode et le déclencheur, c'est Netflix, l'incroyable succès de la série Le Jeu de la Dame.
Je vous mets avec les débutants.
Je ne suis pas débutante.
Là n'est pas la question.
Il y a une règle qui m'empêche d'être dans le tournoi ouvert.
Non, pas vraiment.
Alors inscrivez-moi.
La série multi-récompensée, sortie en pleine crise Covid, entre deux confinements, une bénédiction pour Éloi Rollange.
Les deux sont arrivés en même temps, donc on voyait les échecs à la télé sur une série extrêmement populaire. Et en même temps, il y avait la possibilité d'aller immédiatement sur l'ordinateur pour pratiquer, pour jouer, pour faire des exercices. Et donc je pense que ces deux éléments ont réveillé toutes les envies de tous ceux qui avaient les échecs dans un coin de leur tête pour aller justement s'inscrire en club.
La Fédération d'échecs a enregistré cette année son plus grand nombre de nouveaux licenciés. En tout, ils sont 55 000 dans les 850 clubs français, dont le numéro 2 mondial, Alireza Firouja, prodige de 18 ans, que tout le monde annonce comme le futur numéro 1.
Vous le voyez maintenant ? Ou vous voulez aller jusqu'au mat ?
Voilà, il n'y a pas de sport plus violent que les échecs. Kasparov, l'en format signé ce soir, Nicolas Perronnet.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine, et on ouvre la page agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient. Une semaine marquée par les derniers jours de campagne pour tenter de convaincre avant le second tour dimanche prochain. Dernier jour de campagne et dernier meeting jeudi pour Marine Le Pen à Arras, au cœur des Hauts-de-France. Fin de campagne très active également pour Emmanuel Macron avec un dernier meeting vendredi après la matinale de France Inter. Meeting en Auvergne ou en Bourgogne. Le choix n'est pas encore arrêté selon son équipe de campagne. Mais le gros morceau de la campagne, c'est mercredi 21h, rendez-vous à noter, le débat d'entre-deux-tours Le Pen-Macron, ces débats majeurs ultra regardés ne changent pourtant pas les rapports de force selon Brice Teinturier de l'Institut Ipsos. Mercredi, le débat a tout de même une vraie particularité, il s'agit d'un match retour et c'est rarissime sous la 5e République. Brice Teinturier avec Yaël Gauze.
En 2017, le débat avait marqué tellement la supériorité d'Emmanuel Macron sur Marine Le Pen qu'il a accentué une tendance mais qui était déjà là. Et puis surtout, je crois que ce qu'il faut regarder, c'est que les débats en réalité qui opposent pour la deuxième fois deux candidats sélectionnés pour le second tour, eh bien nous n'en avons pas beaucoup. Or, lors du deuxième débat Giscard-Mitterrand, Mitterrand avait repris sa revanche d'une certaine façon sur Valéry Giscard d'Estaing. Vous n'êtes pas l'homme de l'avenir, vous êtes l'homme du bilan. Et on peut s'attendre à ce qu'on ait une mécanique qui ressemble davantage à cela lors du prochain débat de l'entre-deux-tours qui va opposer Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Très certainement, il sera différent de 2017. Très certainement, Marine Le Pen appuiera sur toutes les dimensions de bilan et du sortant qu'est devenu Macron pour essayer de le mettre en difficulté. On peut s'attendre donc à un débat beaucoup plus équilibré, mais pas forcément à un déplacement des voix.
Voilà, Brice Teinturier, une semaine, vous l'avez compris, consacrée surtout à la campagne avant le second tour dimanche. Mais à noter quand même, mardi, le retour du printemps de Bourges, après deux éditions gâchées par la crise sanitaire. Et puis vendredi, un nouveau chapitre du Festival du Livre de Paris jusqu'à dimanche, au Champ de Mars, pour sa première édition. Il succède au Salon du Livre. On va s'intéresser maintenant à un incontournable de Pâques. La chasse aux œufs, c'est l'un des moments privilégiés des enfants et des plus grands après Noël. C'est mon actu, Sandrine Houdin s'est posé la question. Combien serons-nous ce week-end à chercher des œufs? Aujourd'hui, dimanche pour certains, d'autres, ce sera demain lundi. 15 000 tonnes de chocolat sont englouties chaque année à Pâques. Et à la mère de famille, le chocolatier parisien historique, on a organisé une gigantesque chasse aux œufs pour les petits au musée Rodin. Pour les petits et pour les plus grands, on vous dit.
C'est une tradition. Trouver des chocolats, chercher. Faut courir partout et chercher des œufs.
Oula, pas mal.
7, 8, 9, 10, 11.
Vous repartez en enfance, vous aussi, ou pas?
Ah oui, complètement, ouais.
Et pourquoi?
C'est adrénaline, chocolat, en ramener le plus possible.
Trouver un rose.
Il était caché où?
Bah, il était caché sous ça.
Sous le banc?
Bah oui.
Tu as quel âge, Mimi?
4 ans et demi.
Est-ce que... Ah, il est parti. Il est parti. Ah, il y a des parents accroupis, là, comme les mômes. Madame, bonjour, je fais un reportage sur la chasse aux œufs. Pourquoi il y a autant de mamans à quatre pattes?
Écoute, pour moi, c'est une journée qu'on oublie tout, on s'amuse.
Vous avez ramassé combien d'œufs, là, madame?
Et là, ça me fait 4.
Tu en as chopé combien, toi?
Un papa.
Oui.
Ah, déjà, il se marre.
Oui, beaucoup. Tout est réuni là pour faire une bulle joyeuse et heureuse.
Mais qu'est-ce que vous avez laissé à l'accueil, là, comme les dames, là?
Mon angoisse, mon stress, mon âme d'adulte.
Je pense qu'il en a peut-être sous ses blessures.
Attends, je te suis. Attends-moi, Aminette. Alors?
Rien. Rien de rien, que des feuilles. Alors on va continuer à chercher.
Mais est-ce que tes parents, ils te laissent manger tout le chocolat que tu trouves?
Non, parce que sinon ça nous donne des caries.
Allez, un peu plus loin. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites au milieu des feuilles là?
Je suis en mission pour mon fils de 4 ans et demi.
D'accord, et mission pour?
Trouver un œuf.
Et ça vous fait marrer?
Eh oui, absolument. Ah oui, surtout actuellement. Avec le Covid, les élections, tout le monde se bagarre, ça vide l'esprit.
Mais tu sais que Nina, elle a trouvé des œufs alors que nous, on n'a pas trouvé des œufs.
C'est qui Nina?
Nina, c'est ma copine qui est dans le même immeuble que moi.
Putain. Madame, revenez ici. Revenez ici. Ah, ah. Madame, madame.
Ah non, mais attendez, non, c'est. Je suis super excitée, c'est l'œuf en or.
Mais ça vous éclate autant que les mômes.
Mais oui. Mais parce que les adultes ont fait plus de jeux. Alors que là, c'est fantastique.
Voilà, la chasse aux œufs, fantastique. C'est mon actu, Sandrine Houdin, au générique de cette édition. Merci à Ludovic Asselot et Guillaume Roux, en régie, qui m'ont aidé à préparer ce journal, avec Anne Patinec à la rédaction en chef, assistée de Rachid Zourdani et Cyril Valli. Un grand, grand merci à l'équipe et à vous d'avoir écouté ce journal. La météo dans un instant.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, Euromaster est partout au service de votre sécurité.
Jean-Pierre Hameau.
Ce soir et cette nuit, une perturbation essentiellement nuageuse va onduler sur la Bretagne. Vous allez la retrouver demain matin, du Poitou-Charentes à la Normandie, en passant par la région Pays de la Loire. À noter un ciel bâché entre l'Aquitaine et l'Occitanie. Retour d'un ciel variable en Bretagne et partout ailleurs. Votre matinée restera bien ensoleillée. Peu d'évolution l'après-midi, vous retrouverez un ciel de traîne chargé et quelques averses entre la Nouvelle-Aquitaine et la Bretagne. Et de la Normandie au Nord-Pas-de-Calais, vous profiterez encore d'un bon ensoleillement de l'Île-de-France aux frontières du Nord-Est et de l'Est, ainsi qu'autour de la Grande Bleue. Les températures maximales vont baisser sensiblement, elles évolueront entre 14 et 23 degrés. N'attendez pas plus de 14 degrés à Brest, 16 à Saint-Jean-de-Luz, 17 à Nantes, prévoyez 18 à Nice-et-Bastia, 19 à Cambrai, Bordeaux et Montpellier, 20 à Beaune, Lyon et Toulouse, comptez 21 à Paris, 22 à Montélimar et 23 à Nîmes.
Jean-Pierre Hameau de Météo France.